France Culture.
Les nuits de France Culture.
Tout le monde connaît, de près ou de loin, l'histoire des camps de concentration. Ce que l'on sait moins, c'est qu'une véritable résistance s'est organisée à l'intérieur de ces camps, malgré les tentatives de démantèlement et de dissuasion constante des SS. L'un des premiers enjeux fut de prendre le contrôle de certains postes à responsabilité, que les SS ne donnaient qu'aux prisonniers de droit commun, qui servaient d'extension de leur autorité. L'obtention de ces postes demanda une grande ingéniosité et des manœuvres politiques planifiées avec attention, dans des conditions de vie évidemment épouvantables. Si c'est d'abord par nationalité que s'organisent des groupements de prisonniers, il y a peu à peu une solidarité internationale qui se met en place, notamment au camp de Mauthausen, sous l'impulsion des déportés français, d'abord très mal vus par les autres déportés européens. Dans ce 13e de 27 épisodes de la série « Le monde concentrationnaire », Francis Crémieux braque le projecteur sur le commando de Melk, qui permit de sauver des centaines de détenus d'une mort certaine, et même, avec l'aide de déportés juifs hongrois, de s'armer pour planifier une potentielle résistance face aux SS. C'est l'histoire de cette résistance politique interne au camp que racontent Pierre Dex, Gérard London et André Ullmann, dans une émission diffusée pour la première fois le 11 mai 1965 sur France Culture.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire. La résistance française dans les camps de concentration allemands. Une émission de Francis Crémieux.
Aujourd'hui, Melk, un commando à direction française, entretien avec Pierre Dex, Gérard London et André Ullmann.
Nous allons ce soir essayer d'entrer dans le détail de la mise en place d'une direction française dans un des commandos extérieurs de Mauthausen. Et pour ce faire, commençons par le commencement avec Gérard London, qui était l'un des membres du comité international du camp. Monsieur Gérard London, d'après ce que vous nous avez dit, dès votre arrivée au camp, vous avez retrouvé rapidement des contacts.
Je connaissais un certain nombre de camarades qui avaient été détenus à la suite de leur action armée contre les envahisseurs. Et ces contacts nous ont permis de transmettre immédiatement les consignes que nous avons reçues en France et entamer la discussion sur le plan concret d'une réorganisation de la résistance à l'intérieur du camp. Mon travail essentiel, c'était l'organisation de la résistance dans le camp. Et pour pouvoir réaliser ça, j'ai travaillé dans un commando Aufnahmekommando, les commandos de réception qui remplissaient les fiches des nouveaux arrivés, ce qui me permettait d'avoir suffisamment de temps libre pour prendre les différents contacts nécessaires pour organiser la résistance sur le plan international dans les camps.
Mais qui vous avait donné ce travail?
J'ai retrouvé un Autrichien, Leo Gabler, qui par la suite était exécuté à Vienne, que j'avais connu lorsque j'ai milité dans les mouvements antifascistes en Tchécoslovaquie, où il était venu après les combats de barricades à Vienne en 1934. J'ai retrouvé des Tchèques qui avaient combattu avec moi dans les brigades internationales en Espagne. J'ai retrouvé des résistants tchèques, polonais, allemands, autrichiens qui avaient combattu avec moi dans la MOI en France. Après que nous avons transmis les directives que nous avons reçues du Comité national de la résistance, tous ces groupes nationaux ont examiné les directives et ont décidé, non sans difficulté dans certains groupes, d'adhérer au principe d'une organisation
centralisée
internationalement dans les camps. On s'est mis d'accord sur un comité international, le premier comité international, qui devait réaliser les consignes que nous avons reçues. Et j'étais désigné dans ce comité international. Le premier comité international, qui s'était formé en 1944, en avril, était composé de 3 Autrichiennes, de Léo Gabler, de Kohl, de Marschalek et de moi.
Pas de soviétiques?
Non. Par la suite, ce comité international fut élargi, notamment après l'exécution de Gabler, moi-même malade, par l'Espagnol Rassola, qui devint responsable international, le Tchèque Hoffmann, peu de temps après par Octave Rabaté, français, ensuite par Durmayer, autrichienne, Sirankiewicz, actuel président du Conseil polonais, par Giuliano Paietta, italien, et Émile Vallée, pour les Français, vers la fin de notre détention.
Nous voyons mieux maintenant comment était structuré en 1944 le comité international clandestin au sommet. Examinons maintenant la place des Français dans le camp. Comment pouvaient-ils céder puisqu'ils n'avaient pas un commando où ils étaient à la direction? Quand arrivaient 100 Français, encore à cette époque, mars 1944, comment pouviez-vous les aider, Pierre Dex?
Quand arrivaient, disons, 100 Français, il nous était parfois possible de faire quelque chose pour 5 d'entre eux, 10 d'entre eux, 30 d'entre eux, mais jamais pour les 100, ou à moins d'un coup de chance. Dans la pratique, vous avez déjà un certain nombre de critères qui ne dépendent pas des détenus. Tel commando est un commando dans lequel il n'y a pas de Français. Même si c'est un bon commando, vous ne pouvez pas y envoyer de Français s'il ne parle pas l'allemand, ou s'il ne parle pas, disons, la langue. Parlez couramment dans le commando, par exemple, si c'est l'espagnol, l'espagnol. Mais vous comprenez, la pratique, l'existence même du camp fait que les choix sont limités. Le travail du comité de résistance ne peut pas bouleverser certaines règles établies. Les problèmes nationaux se posent à 2 échelons. Premièrement, l'échelon de décision politique d'ensemble. Celle qui a eu le plus d'importance a été la création du commando de Melk avec des dirigeants français. Cette décision générale permettait, après, pour nous, par exemple, de faire que quand il y avait un convoi pour Melk, nous y casions automatiquement le plus grand nombre de Français possible. Et ceci sans qu'il y ait de problèmes nationaux, puisque c'était un commando à dominante française. Reste le cas courant. Vous avez un certain nombre de Français qui sont là en quarantaine, dont nous connaissons les caractéristiques, c'est-à-dire le métier qu'ils font, s'ils parlent allemand, s'ils ne parlent pas allemand, qui sont en quelque sorte, si vous voulez, les demandes d'emploi. Et de l'autre côté, vous avez les offres d'emploi, soit de l'administration SS, c'est elle qui prime et qui les dit au dernier moment, soit les offres d'emploi presque fabriquées par l'organisation résistante du camp. Et à ce moment-là, en effet, il y a la discussion entre nationalités.
Ce qui signifie bien que lorsque le contingent français s'est renforcé, il a fallu qu'il lutte pour se faire reconnaître, disons, comme puissance à part entière.
Exactement.
Par les camarades étrangers qui,
exactement,
jusque-là occupaient le camp, si j'ose cette expression.
Oui, et qui d'autre part avaient des raisons de n'être pas entièrement convaincus de la volonté générale de résistance du peuple français. Mauthausen était un camp où l'organisation majeure des détenus, qui avait les principaux leviers de commande en main, était l'organisation des droits communs. L'organisation politique avait conquis, avait arraché un certain nombre d'autres leviers de commande, mais sur un certain nombre de décisions très importantes, nous étions tenus de passer des compromis, enfin, ou de négocier avec l'organisation verte, l'organisation des droits communs, qui tout de même était dominante. C'est-à-dire que vous comprenez, au fond, il faut penser à une partie triangulaire. Vous avez tout de même l'administration SS. Parce que, entre nous soit dit, quand les gens disent que l'administration détenue était
toute puissante,
ces gens oublient toujours une chose, c'est qu'il y avait d'abord l'administration SS. Et là, nous avions, nous, un jeu sur 2 fronts, et même, disons, 2 fronts et demi au moins, avec l'existence d'une organisation politique blanche.
Pierre Dex, si vous permettez, nous allons demander à André Ullmann de nous dire dans le détail comment Melk a été organisé. André Ullmann, comme Gérard London, vous êtes arrivé à Mauthausen avec des consignes précises d'organisation. Voulez-vous me dire comment ces consignes ont été reçues?
Lorsque je suis arrivé à Mauthausen, le camp avait pris ses routines, et lorsque pour la première fois, même avec des concentrationnaires très formés politiquement, j'ai eu l'occasion de parler de la nécessité de créer tout de suite, comme une mesure de sécurité et en même temps comme un élément de combat, une organisation de résistance, je dois dire que ceux qui ont été surpris, c'était mes interlocuteurs et pas moi. Et c'est sur cette base-là que, pendant un mois, nous avons discuté, souvent très durement, car mes interlocuteurs pensaient que ce qu'il était essentiel, c'était simplement de préserver passivement les meilleurs des éléments qui se trouvaient dans le camp de concentration, comme ils les définissaient.
Oui, mais qui étaient ces interlocuteurs ?
Oh, c'était des Allemands, c'était forcément à l'échelon international, parce que Mauthausen était un camp où il y avait beaucoup d'Allemands, il y avait beaucoup de droits communs, et il y avait aussi des politiques, mais allemands, tchécoslovaques, autrichiens, et qui, au moment de notre arrivée, avaient surtout pensé à la manière de survivre, ce qui était d'ailleurs tout à fait naturel. Par exemple, la cartothèque de Mauthausen, qui était un point clé, était occupée par des détenus qui avaient d'ailleurs un sens politique, en particulier des Tchécoslovaques, qui savaient ce que devait être la résistance et qui n'avaient jamais pu dépasser ce stade qui consistait uniquement à protéger le moins mal possible par les moyens dont ils disposaient dans l'administration même du camp contre les droits communs et puis contre la destruction systématique par les nazis.
Qui dirigeait l'organisation internationale ?
Là, ça a posé un petit problème qui était intéressant épisodiquement et qui a été très facilement résolu. Par exemple, je proposais que la direction internationale comporte une prédominance autrichienne, uniquement parce que le camp se trouvait en Autriche. Et puis, les circonstances mêmes ont fait que il y a eu un Autrichien dans la direction internationale à Mauthausen, qu'il n'y en a pas eu à Melk, parce que les quelques Autrichiens que nous avons eus, nous les réservions à un autre rôle, c'est-à-dire que nous avons essayé de les faire s'évader, et nous y avons quand même réussi 7 fois.
Est-ce que les Français étaient représentés au comité international avant l'arrivée de votre convoi ou non ?
Mais avant l'arrivée de notre convoi, il n'y avait pas, à proprement parler, un comité international. Le comité international, se fondant sur les consignes que nous avions apportées à Mauthausen, ne s'est constitué qu'à ce moment-là. Compte tenu de la situation dans le camp et de la création d'un commando à Melk pour y construire une usine souterraine, nous avons décidé au comité international, qui venait de se constituer, de tenter sur Melk une expérience. Et alors que les Français à Mauthausen, jusque-là, avait été dans une situation particulièrement difficile, nous voulions tenter de faire de Melk un commando qui serait en fait dirigé par les détenus français.
Combien de Français ont pu ainsi être dirigés vers ce commando nouvellement créé de Melk ?
Il en est passé environ 5 à 6 000 par Melk.
Comment avez-vous été désigné, vous, pour aller à Melk ?
Mais c'était tout simple, ça a été une décision du comité international de Mauthausen. Et cette décision, une fois prise, nous avons pris les dispositions, en fonction de l'organisation même qui était la nôtre, avec les détenus que nous avions placés à la cartothèque, à l'Arbeitseinsatzbureau et dans les différents services du camp, pour mener une action parfaitement concertée, qui a été notre première bataille, et notre première bataille gagnée.
Mais il fallait que les SS acceptent que vous ayez ces responsabilités.
Alors ça pose tout le problème de nos rapports à nous, organisation de résistance, avec les SS.
Des détails.
Eh bien, le comité international prend sa décision. On va essayer de faire à Melk une expérience. L'administration SS ne savait absolument pas qui nous étions, qui j'étais. Pour elle, c'était un numéro. Si le numéro figure sur un état de gens à envoyer dans un commando, il y avait peu de chances pour que la direction SS fasse une observation. La direction SS a envoyé à Melk un certain nombre de droits communs. Il fallait qu'il y ait la proportion. C'était bien loin quand même.
C'était, ça, la, c'était technique la technique SS.
La technique SS qui consistait à donner au droit commun les pouvoirs les plus étendus. Et puis une fois qu'on était arrivé dans le commando, c'est là qu'il fallait mettre en pratique les moyens de bataille dont nous disposions, c'est-à-dire que nous avions inventés, les mettre peu à peu en place.
Alors, vous arrivez à combien dans ce commando, initialement ?
Initialement, nous sommes arrivés à très peu, nous sommes arrivés à 1 000 000. Et sur ce millier, il y avait 100 de Français, si mes souvenirs sont exacts. Et puis, aussitôt après, il y a eu un nouveau convoi dont il était convenu que ce seraient les Français. Et c'est ainsi que, peu à peu, on a mis sur place un encadrement pour le commando de Melk, qui était composé pour partie des droits communs qui devaient remplir leur office et pour partie des politiques. Et la lutte, pendant les 2 premiers mois, sous l'œil des SS qui ne comprenaient pas très bien ce qui se passait, a été entre les droits communs et les politiques. Il se trouvait qu'en ce qui concerne l'administration d'un camp de l'intérieur, les politiques était beaucoup plus efficace que les droits communs, dont le seul rôle consistait à tuer des gens, à frapper et à faire régner l'ordre dans les baraques. À partir de ce moment, nous avons été amenés à prendre tout ce qui était administration proprement dite du camp. Parce que les droits communs savaient mal compter, nous savions mieux compter qu'eux. Les droits communs ne savaient pas tenir un état de la comptabilité, par exemple, de l'Obersturmführer, Ludolf, qui commandait le commando de Melk. Et là, nous avons été servis par une chance qui n'était pas prévue dans les consignes. C'est-à-dire que l'Obersturmführer et les cadres SS du camp avaient l'intention, qu'ils ont réalisé tout de suite, de détourner au maximum les fonds du camp de concentration. Naturellement, notre vertueuse indignation n'avait aucun moyen de se faire connaître, et en plus, nous n'avions aucune intention de la faire connaître. Et un des moyens d'action les plus efficaces que nous avons eus au commando de Melk, ça a été de tenir la comptabilité secrète de l'Obersturmführer. Nous la tenions à deux, le secrétaire du camp qui était un avocat catholique et politique de Berlin, et moi. En même temps que nous tenions la comptabilité du travail, que nous tenions la comptabilité de... Enfin, toute l'administration du camp.
Vous teniez l'Obersturmführer.
Nous tenions l'Obersturmführer. Et à plusieurs reprises, il y a eu au camp des inspections venues de Berlin, et l'Obersturmführer nous a fait venir et assister à ces inspections, et c'était nous, malheureux détenus, qui devions mettre dedans l'inspecteur venu de Berlin. Heureusement, nous y sommes parvenus. Les buts que nous avions visés étaient de deux sortes. Premièrement, empêcher au maximum la destruction des détenus, qui était un des objectifs, au contraire, des SS. Par exemple, il n'y a pas eu un seul jour, à partir du moment où le commando a fonctionné en régime de croisière, où je n'ai pas pu dissimuler 100 à 200 détenus qu'on n'avait pas besoin d'envoyer à l'infirmerie et qui étaient planqués dans les baraques où ils pouvaient respirer un peu, se remettre un peu, et en même temps ça permettait de planquer des gens dont nous avions besoin pour l'organisation de résistance. Deuxième objectif. Le comité militaire avait décidé de s'armer. C'était un problème qui paraissait insoluble. Il se trouve que nous l'avons résolu et qu'à Melk, par exemple, grâce à un commando qui était composé surtout de juifs hongrois, ces juifs hongrois ont réussi à rapporter en un mois de temps environ, en général par pièces détachées, 7 revolvers. À l'intérieur du commando, et les munitions qui étaient nécessaires pour ces revolvers.
Du point de vue de la solidarité, comment avez-vous fait ?
Ça n'a pas posé de problème, d'une part, parce que le vol pouvait s'organiser très bien, et que la plupart des détenus, ceux qui étaient affectés par exemple aux cuisines SS, ont fait montre d'une très grande dextérité. C'est-à-dire qu'il y a des vocations qui naissent des circonstances et des intellectuels très distingués qui depuis ont fait carrière ou des ouvriers que rien ne prédisposait à ce vol à la tire ont été parmi nos ravitailleurs les plus, vraiment les plus efficaces. Le grand problème, ce n'était pas pour se procurer ce ravitaillement, pour le voler, mais c'était pour le répartir. Et ça, ça a supposé, de la part des détenus, une discipline, et de la part de l'organisation internationale, la possibilité de maintenir cette discipline, avec des arguments politiques surtout, et avec des arguments humains, qui est une des réussites quand même les plus surprenantes.
Et comment évoluaient vos rapports avec les droits communs ?
Nous avons réussi à ce qu'on ne nous en envoie plus.
Est-ce qu'il y avait un crématoire à Melk ?
Bien entendu.
Est-ce que l'extermination était poussée au même degré qu'à Mauthausen à la même époque ?
Évidemment pas. Parce que à Melk, il s'agissait de construire une usine souterraine. Et que cette usine souterraine, nous avons d'ailleurs réussi à en freiner la construction.
Qu'est-ce qu'on devait fabriquer dans cette usine ?
Vraisemblablement des fusées et des V2.
Et les services de renseignement alliés n'étaient pas au courant de ces plans ?
Les services de renseignement alliés, nous avons eu avec eux des rapports d'abord difficiles. C'est-à-dire qu'un jour, nous avons vu le commando, où il restait 2000 hommes, les autres 6 ou 7000 étaient au travail, survolés par des bombardiers américains. Et ce jour-là, nous avons perdu 1 000 000 d'hommes. Et malheureusement, ce n'est qu'une dizaine de jours après qu'un des Autrichiens que nous avions réussi à faire évader a pu prendre le contact avec des agents britanniques, je crois, qui ont enfin averti le commandement interallié de l'existence à Melk d'un camp de concentration. C'était 8 jours trop tard.
C'était La résistance française dans les camps de concentration allemands, une émission de Francis Crémieux. Assistant Gilbert Maurice Duprez.
C'était Melk, le 13e de 27 épisodes de la série « Le monde concentrationnaire » de Francis Crémieux, avec les témoignages de Pierre Dex, Gérard Landon et André Ullmann. Première diffusion le 11 mai 1965 sur France Culture. À suivre.